Tous ici, nous voudrions sans doute un monde de paix. Il se trouve que le monde est dans l'état où il est.
Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis.
Les choses ne vont pas se faire comme ça.
On vous licencie pour quelques années, puis vous reviendrez plus tard.
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire.
Nos salaires ont baissé d'environ 25%.
Score maximum. Ça, c'est bon.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale.
Droit d'asile, la faute morale, c'est la une de l'hebdomadaire en ce jeudi 22 février 2018. Mercredi, au Conseil des ministres, Gérard Collomb présentait son projet de loi délicatement intitulé « Pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif ». Et dans le dossier du Politis de cette semaine, un dossier donc intitulé « La faute morale de Macron », concocté par Ingrid Merkel, hein, ce dossier, il est précisé d'emblée que l'orientation de ce projet de loi était connue, des procédures plus expéditives, une répression accrue. Ingrid Merkel est au bout du fil. Bonjour Ingrid.
Bonjour Mathilde.
Alors, première de mes trois questions, que nous dit, qu'annonce ce projet de loi en substance ?
Alors oui, donc ce projet de loi qui a été présenté hier en Conseil des ministres, bon, alors il annonce quelques petites avancées, je vais balayer ça assez rapidement, mais notamment des procédures améliorées pour le regroupement des fratries. Voilà, il y a quelques petits points comme ça qui vont représenter des avancées, mais sinon, l'esprit de ce texte, c'est bien ce que vous résumiez tout à l'heure, c'est-à-dire des procédures expéditives et une répression accrue, c'est-à-dire que l'ensemble... En ce qui concerne les demandes d'asile, l'ensemble de la procédure va être resserré de 11 mois à 6 mois aujourd'hui, si ce texte de loi est voté en l'état. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile n'auront plus que 6 mois pour une sorte de parcours du combattant, de course de saut d'obstacles, c'est-à-dire entre le moment où ils vont déposer leur demande d'asile et le moment où ils vont obtenir leur réponse définitive. Il faut savoir que dans ces 6 mois, il faut d'abord qu'ils soient en état de savoir s'ils vont déposer une demande d'asile, dans quelles conditions ils vont déposer une demande d'asile. Il faut qu'ils écrivent leur récit, qu'ils trouvent souvent un interprète, ensuite qu'ils trouvent un rendez-vous en préfecture. Par exemple, à Paris, il faut attendre jusqu'à 4 mois pour avoir un rendez-vous en préfecture, etc. etc. Mmh. Je rappelle que pendant tout ce laps de temps, ils n'ont pas d'hébergement, ils n'ont pas de location pour demandeur d'asile, puisqu'il faut avoir déposé sa demande d'asile pour pouvoir avoir cette allocation, etc. Donc, c'est des gens qui sont déjà, qui ont traversé des mers, qui ont traversé des montagnes, etc., qui sont dans un état de santé physique et mentale assez fragile et qui, en plus, doivent se livrer à toute cette course d'obstacles. Et en plus, ils sont très précaires puisqu'ils n'ont ils ont régulièrement peu de ressources et ils ne sont pas logés, sauf quand ils sont hébergés par des gens de la famille ou des amis ou de la solidarité. Quoi.
Et puis,
donc ça, c'est pour les demandeurs d'asile.
C'est ça.
Et du côté du volet rétention, la loi, donc celle qui a été présentée en Conseil des ministres hier, le projet de loi prévoit un allongement de la durée de rétention. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la durée maximale de rétention était 45 jours. Elle va passer cette durée à 90 jours, renouvelable jusqu'à 135 jours. Et ça, c'est absurde parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est en moyenne 12 jours. Quand les gens sont placés en rétention, il faut en moyenne 12 jours pour que les consulats des pays d'origine délivrent des laissez-passer et qu'ils soient renvoyés dans leur pays. On sait qu'au-delà de cette période, en général, les consulats ne délivrent pas de laissez-passer. Donc allonger cette durée est jugée complètement absurde par les associations de défense des migrants.
Donc on a dans ce projet de loi, c'est un projet de loi, ça va donc être discuté à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y aura le jeu des navettes et puis le jeu de l'opinion publique et puis des associations, hein, notamment de défense des droits des personnes migrantes. On a donc dans ce projet de loi ce que nous dit Ingrid Merkel, journaliste à Politis, et on fait référence justement au dossier de Politis cette semaine, hein, sur cette faute morale de Macron. Je reprends l'intitulé de ce dossier. On a un raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'asile et réduction des délais de recours hein, également. On a un allongement des périodes de rétention également. Il y a des choses aussi qui concernent le placement en rétention des personnes placées sous procédure Dublin. Hein, ça a été voté le 15 février, un petit peu en catimini, Ingrid.
Oui, ben alors ça, c'est une sorte d'annexe, si vous voulez, à la loi. Enfin, c'est pas présenté comme ça, parce que c'était pas un projet de loi, mais une proposition de loi. Ce qui est sûr, c'est que ça a été déconnecté du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, parce que ça découle du droit européen. Parce qu'il fallait, en gros, que la France se mette en conformité avec le respect des procédures, etc. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que c'est un durcissement du traitement de ce qu'on appelle les Dublinés. Donc, vous savez, les Dublinés sont les personnes qui tombent sous le coup du règlement de Dublin, selon lequel elles doivent déposer leur demande d'asile dans le pays par lequel elles sont entrées dans l'Union. C'est rarement la France, hein, parce qu'en général, elles sont passées par l'Italie, par d'autres pays d'Europe, par la Grèce, etc. etc. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont passées par ces pays-là, qui arrivent en France, ne peuvent pas déposer leur demande d'asile en France. Et donc, on va les placer en rétention. Donc d'une part, elles pourront pas déposer leur demande d'asile en France. En plus, elles se retrouvent en rétention et donc potentiellement expulsables. Donc ça vise à quoi? D'une part, à enfermer un peu plus les personnes dans ces situations-là et d'autre part, à réduire le nombre de demandeurs d'asile en France.
Alors tout ça, ça va faire quoi? Ça va conduire, comme le pensent certains défenseurs des droits et des libertés fondamentales, je pense à la LDH et à d'autres signataires d'un appel qui m'est parvenu ce matin, ils disent notamment que ces orientations de ce projet de loi pourraient, j'ouvre les guillemets, pourraient conduire les personnes migrantes à fuir les procédures et les dispositifs sociaux multipliant les situations d'errance et de précarité, fermez les guillemets, et je pense notamment aux mineurs isolés étrangers dont il n'est absolument pas question dans ce projet de loi, Ingrid.
Non, effectivement, il n'est pas question des mineurs isolés étrangers. Alors, je pense que ça... Parce qu'en fait, ce dont on a l'impression, c'est que tout a été découpé, si vous voulez, en plein de petits morceaux, et les mineurs étrangers isolés feront peut-être l'objet d'un autre texte qu'on attend d'ailleurs. Ouais. Effectivement, il n'est pas du tout question d'eux et de leur sort. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a certains qui disent que le programme de Gérard Collomb et donc d'Emmanuel Macron, puisque le président donne son aval à toute cette politique, c'est plus dur que sous Nicolas Sarkozy.
Ce qui est pas peu dire,
c'est pas non plus tout à fait le même contexte, mais il faut prendre ça en compte aussi, c'est-à-dire que depuis il y a eu la guerre en Syrie, depuis on a eu de nouveaux chiffres sur les vagues de migration qu'on peut attendre du fait des catastrophes climatiques, etc., etc., ce qui fait dire à d'autres que c'est toute la politique d'immigration qu'il faut revoir, pas uniquement la politique d'asile.
Donc, et ça, c'est pas encore sur la table de voir ça dans son ensemble?
C'est pas l'orientation qui est prise, parce que la politique de Gérard Collomb, c'est de bien faire la distinction entre ce qui relève du droit d'asile et ce qui relève de ce qu'il appelle les migrants économiques. Donc cette distinction-là, il dit tiens, il a même déclaré qu'il était obligé de faire le tri. On peut effectivement se poser la question, est-ce que ça a du sens de distinguer les réfugiés des migrants que lui appelle économiques? Est-ce que parfois ce sont pas les mêmes? Est-ce qu'on peut pas faire plusieurs choses à la fois? Est-ce que ça a encore du sens? Alors déjà, est-ce que ça en avait à l'origine? Est-ce que ça en a encore aujourd'hui? Effectivement, quand les guerres se multiplient, quand effectivement les pays du Nord peuvent avoir une responsabilité dans les guerres déclenchées au Sud, et quand les catastrophes climatiques ont les conséquences qu'elles ont aujourd'hui.
Et puis cet infinitif, un trié d'une violence extrême, bien sûr, puisqu'il s'agit d'humains, effectivement, on peut être opprimé par des conditions économiques ou des conditions politiques si on fuit son pays. Ce n'est pas pour faire du tourisme en général, à moins qu'on ait de l'argent, ce qui est pas le cas de ceux qui franchissent, par exemple, les Alpes, hein, voilà, et qui le font au péril de leur vie, qui ont, comme nous le disait Ingrid il y a quelques minutes, ont traversé des océans, ont traversé des montagnes, ont traversé des déserts également, et voilà, dont les survivants donc arrivent jusqu'à chez nous. C'est la fin, Ingrid Merckx, de la tradition de l'asile en France, avec ce tri effectué, avec ce projet de loi Collomb.
Alors la fin, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui parlent de rupture, en tout cas. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'alibi politique de Gérard Collomb, c'est que par ailleurs, il va améliorer la prise en charge des demandeurs d'asile en France. Et ça, c'était réclamé par les associations. Donc d'une part, il restreint le nombre de personnes qui vont pouvoir accéder au statut de réfugié. C'est-à-dire que ceux qui vont réussir et qui auront un doctorat en administration ou qui auront été bien aidés, qui vont pouvoir tenir le délai de 6 mois, obtenir leur demande, etc. Alors eux, ils vont être mieux accueillis. Il y a un autre rapport qui est paru en parallèle la semaine dernière qui a été déposé par Vincent Taché et dont le gouvernement va probablement s'inspirer, qui prévoit un doublement des heures de français, un meilleur hébergement, etc. etc. Donc ceux qui auront décroché le Graal du permis de séjour, eux, ils auront plus de cours de français, un meilleur hébergement, etc. Et donc, je pense que Gérard Collomb, il va s'abriter derrière ce meilleur accueil, où là, la France pourra s'enorgueillir de bien accueillir ces demandeurs d'asile. La question qu'on peut se poser, parce que ça, on ne peut que s'en féliciter, la question qu'on peut se poser, c'est que vont devenir tous les autres? C'est-à-dire que ces gens-là, est-ce qu'on va les placer plus en rétention, les expulser davantage, les laisser mourir un peu plus dans les rues? Voilà.
Alors, Ingrid Merckx prononçait à l'instant le mot rétention. Je rappelle qu'on est toujours avec Ingrid Merckx, journaliste à Politis. C'est la chronique Politis dédiée justement à la une et au dossier de Politis sur la faute morale que constitue ce projet de loi Collomb sur le droit d'asile. Il y a un article dans ce dossier justement sur les centres de rétention administrative dont la durée d'ailleurs a été doublée si cette loi voyait le jour. Je renvoie donc à Politis. Ce projet de loi, justement, Ingrid, il fait grincer des dents, alors à gauche, dans les milieux militants, dans les milieux associatifs, mais aussi chez La République En Marche. Alors, c'est d'ailleurs le cas de la députée La République En Marche, Sonia Crimi, qui a été interviewée par vous, Ingrid. Qu'est-ce qui ne passe pas pour la députée de la Manche et puis d'autres voix qui se sont élevées du côté de la majorité présidentielle?
Oui, en effet, on a le sentiment qu'avec ce projet de loi, et en tout cas son orientation qui était, comme on le disait tout à l'heure, connue depuis plusieurs mois, c'est la première grande fracture au sein de La République En Marche. Sonia Crimi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la parole au mois de décembre à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Elle s'est adressée à Gérard Collomb et elle a commencé en lui disant non, monsieur le Premier ministre, tous les étrangers ne sont pas des terroristes, tous les étrangers ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales, etc., etc. Et elle, ce qui la choque, ce qu'elle refuse, c'est la suspicion qui pèse sur les étrangers en général. Elle voudrait qu'on sorte de cette ère du soupçon. Alors elle a un peu gêné aux entournures, hein. Elle dit qu'elle fait partie des 30 000 personnes qui ont co-rédigé le programme d'En Marche, que l'idée c'était effectivement de resserrer la période de demande, ça, le délai pour déposer une demande d'asile sur 6 mois, parce que sinon ça laisse les gens dans une précarité trop grande pendant très longtemps, mais qu'il fallait lier la fermeté à de l'humanité. Et l'humanité, dont il était question dans le programme d'En Marche, elle la retrouve pas tellement dans le projet de loi. Et c'est contre ça qu'elle se bat. Elle dit qu'elle n'est pas seule, elle dit qu'elle n'est pas marginale, que au sein d'En Marche, qu'ils sont plusieurs sur cette ligne-là, et effectivement, ils sont de plus en plus nombreux à se faire entendre et à vouloir faire passer des amendements qui adoucissent ce texte. Mais quand bien même ils l'adouciraient, l'esprit de la loi reste. Hein.
Alors il y a un extrait d'interview, je me permets de lire, Ingrid, c'est donc Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche, du département de la Manche, qui répond à vos questions. Et elle se pose cette question-là, elle nous la pose finalement à nous lecteurs de Politis, à nous citoyennes et citoyens. Elle dit « Qu'est-ce que l'asile ?» C'est offrir un moment de paix. On me répète qu'il est dévoyé en France, cet asile. Mais tant que nous porterons sur les étrangers un regard policier en les considérant comme des menteurs, des fraudeurs, des criminels, nous n'avancerons pas sur le droit d'asile et l'immigration. Voilà, je pense que tout est dit dans ces quelques mots signés donc de cette députée La République En Marche. Le tandem fermeté humanisme, on a beaucoup de doutes à voir effectivement sur cette communication présidentielle concernant justement le droit d'asile et puis ce qui concerne les personnes migrantes, Ingrid.
Bah, surtout quand, quand l'humanité, c'est pour une minorité d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui auront été, entre guillemets, triés sur le volet ou ceux qui auront pu déposer leur demande d'asile dans les temps, etc. Ça, c'est toujours le même esprit de on va trier les bons migrants des mauvais migrants, si vous voulez. Et alors les bons, sur quels critères? C'est toujours la même question. Et puis que vont devenir les autres? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'effectivement on les expulse manu militari? Est-ce qu'on les enferme ou est-ce qu'on les laisse survivre dans la rue devant chez nous?
Il y a un dessin de Lefret Touron sur la première page du Canard enchaîné d'hier, de mercredi 21 février, qui est vraiment hyper percutant, presque dérangeant, un vrai édito. On a la scène, c'est quelques personnes migrantes dans quelque chose qui pourrait être une cellule d'un centre de rétention administrative, et puis un policier qui arrive et qui dit assez enjoué, il dit « fermeté et humanisme sont dans un bateau, humanisme tombe à l'eau, trois petits points ». Tout est dit là aussi, je trouve, par le dessin de l'excellent Lefret Touron. C'est à retrouver donc dans ce dossier Politis. Évidemment, Politis va être très, très, très en veille sur ce projet de loi tel qu'il va être présenté, puis les discussions qui se font jour. Ça risque de faire des vagues, tout ça, forcément.
Oui. Probablement, effectivement, on peut s'y attendre. On peut s'y attendre d'autant plus que, comme vous le disiez, il y a des remous au sein même de la majorité et du parti présidentiel. Donc, il faut voir jusqu'où va les porter leur courage. Moi, je trouve qu'elle est quand même très courageuse, Sonia Crimi, d'avoir pris la parole comme ça. Probablement que ça a déclenché d'autres courages derrière elle. Quand je lui ai demandé jusqu'où elle était prête à aller, elle a été très honnête. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Elle est novice en politique. Elle dit que, on lui oppose toujours l'éthique de responsabilité, de conviction. Elle est encore très attachée à ses convictions. J'espère qu'elle va continuer à s'y accrocher et qu'elle ne va pas se laisser rattraper par les compromis qu'on lui demande.
Voilà une interview donc de Sonia Crimi à retrouver dans les pages de Politis, des pages événements, hein, immigration, la faute morale de Macron. La une, c'est la faute morale, hein, la une de Politis, hein, droit d'asile, la faute morale. On a une photo de Macron, voilà en une. Et puis ce qui risque de faire des vagues, et là j'en viens juste pendant quelques instants à l'éditorial de Denis Seffert, le directeur de Politis, intitulé « Vers les preuves de force ». Nous sommes à la veille d'un conflit de grande ampleur, nous dit Denis Seffert. Il parle évidemment du chamboule-tout suggéré par Jean-Cyril Spinetta concernant la réforme de la SNCF et puis de la disparition à venir du statut justement des cheminots là, qui est en marche, sans mauvais jeu de mots. C'est à retrouver donc dans l'édito de Politis cette semaine. Merci beaucoup Ingrid pour votre disponibilité malgré une grippe, hein, voilà, je vais le dire. Voilà. Donc on est avec vous, on vous soutient parce qu'il y a un peu de grippe là aussi.
Merci, bon courage à vous.